15375, take five.
Everybody's clear now. We don't have to worry about y'all. Go ahead, play yourselves.
Bonjour. Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui veulent bien écouter Trop Vrai pour être Vrai,
le podcast qui tente de franchir le minuscule espace pourtant existant entre philosophie et vie courante. Vous l'aurez compris, l'objectif principal de ce podcast est avant tout de dire des choses sérieuses et ennuyeuses sur des faits de tous les jours. Mais il ne faut pas rougir de tant d'ambition. D'autres y parviennent aussi bien que nous. Par exemple, on pourrait regarder la télé et se rendre à la fine analyse des experts et journalistes. Ou encore, aller à l'université et entendre des discours intelligents, paradoxalement interminables et mesurés. Si ni les premiers ni les seconds ne vous satisferont pour comprendre le monde et y agir, autant prendre la vie bien plus floue des philosophes. Avec l'aide de ces penseurs, et au prix de nombreuses erreurs, je suis sûr que tout compte fait ici, sur la radio Transistor, nous pourrons proposer quelques solutions, à la fois pratiques et fausses, à des problèmes de la vie quotidienne. Assez disserté, la preuve par les faits. Avant de nous consacrer à des cas véritablement complexes, comme le nouveau filtre Snapchat ou les statistiques de Ronaldo à la Juventus, je propose d'étudier un fait moins épineux, moins touchy, comme dirait ma grand-mère. Un problème a priori négligeable et pourtant central. Le problème de l'homme moderne. De qui parlons-nous ? Eh bien de vous.
Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
Though it's hard. Ne vous est-il jamais arrivé de vous sentir nié dans votre personne, mal compris, comme si vous étiez l'objet d'un immense malentendu ? Cela a pu être par exemple le cas chez votre médecin, lorsque le regard du docteur semblait ne pas vous considérer et voir à travers vous comme si votre corps n'était qu'un simple morceau d'étendu. Vous avez pu vous sentir incompris en ne vous retrouvant pas dans les résultats d'une enquête de sociologie justement destinée à cerner la réalité de votre classe sociale. Ou encore, lorsqu'au travail, vous ne vous sentiez pas valorisé pour ce que vous étiez, mais considéré comme un simple appareil de production soumis à des logiques de rentabilité. Vous êtes sûrement la victime d'une situation plus générale, celle où se pose le problème bien plus large de l'homme moderne et duquel tous ces cas sont dérivés. Heureusement, d'autres y ont réfléchi longtemps avant nous. Foucault, puisque c'est lui qui nous aidera aujourd'hui, n'est pas parti sans nous laisser sa solution. Michel Foucault, pendant la majeure partie de sa vie, a cherché à comprendre comment on en était arrivé là. C'est-à-dire comment cet être que je suis, qu'on appelle une femme ou un homme, ne se reconnaît pas et ne peut pas se reconnaître dans l'image qu'on donne d'elle ou de lui. Ainsi, dans son travail d'archéologie, qu'il entend comme l'étude des archives, des vieux livres, quoi, Foucault analyse les différents moments et les césures qui rythment la pensée. Dans les mots et les choses, Foucault compte deux grandes césures qui ont constitué la formation du savoir moderne et ce malentendu vis-à-vis de l'homme. Au Moyen-Âge, nous dit Foucault, les mots étaient directement liés à ce qu'ils désignaient, c'est-à-dire que les choses contenaient en elles-mêmes leur signe laissé par Dieu. Il suffisait de les interpréter, de lire ce signe comme une ressemblance pour les connaître. Par exemple, la noix, qui est similaire à un cerveau, devait être naturellement bonne pour la réflexion. De même, l'échange, le troc, l'ancêtre du commerce, était dans un même rapport direct au signe et à la similitude, puisqu'il suffisait de connaître la valeur d'une marchandise pour l'échanger avec une autre qui lui était égale. Une marchandise renvoie à une autre, et il suffit d'interpréter la ressemblance. Avec l'âge classique, c'est-à-dire au XVIe siècle, par un mystérieux hasard, on voit le mot se défaire de ce qu'il désigne. C'est la naissance de la représentation, c'est-à-dire la naissance d'une présence des choses redoublée. Le langage qui a désormais la capacité de représenter vaut alors pour lui-même. On cherche à le structurer selon une grammaire. De même, les choses font l'objet d'une étude nouvelle. On isole les caractères des plantes et des animaux comme éléments de la représentation pour les classer d'une nouvelle manière, selon un tableau. Enfin, on ne peut plus juger de la valeur d'un objet de manière évidente comme dans le troc, et la valeur est désormais représentée par la monnaie. Ainsi, grammaire générale, histoire naturelle et analyse des richesses, ces ancêtres des sciences modernes sont apparus plus ou moins au même moment en se détachant d'un rapport de similitude, et c'est déjà intéressant de le remarquer. Mais quel rapport avec l'être de l'homme, me direz-vous ? Avec nous, quoi. C'est que ces mutations dans le champ de la connaissance modifient en dernière analyse notre rapport à nous-mêmes. Elles indiqueront bientôt l'impossibilité de représenter les vivants, le langage, la richesse, mais surtout l'homme. Et c'est en partie cette mécompréhension de la représentation qui pèse sur nous dans la vie de tous les jours. En effet, alors qu'on a au XVIIe siècle la prétention de classer de manière totale, le langage, le vivant et les richesses donc, il se trouve que quelque chose empêche leur explication totale. C'est la deuxième mutation épistémique pointée par Foucault. On s'aperçoit dans la philologie que le langage excède sa formalisation et ne se constitue pas uniquement selon des racines, c'est-à-dire une étymologie représentable de manière linéaire. Le mot ne se laisse plus représenter formellement, mais se voit composé de flexions, de forces sonores qui excèdent sa forme. De même avec la biologie moderne et Lamarck, on s'aperçoit que les êtres vivants ne peuvent plus se répartir en séries, mais sont régis par des forces d'organisation qui les développent chacun pour leur compte et non comme une grande famille dont on peut retracer la parenté. Avec l'économie politique et Ricardo, enfin, on constate que le travail devient abstrait et que sa valeur ne correspond plus au travail véritablement fourni. Celui-ci s'inscrit dans des logiques d'accumulation du capital qui échappent à la réalité physique du travailleur. Ainsi, la philologie, la biologie, l'économie semblent manquer le but initial de la représentation, celui de constituer un champ homogène de répartition où peut-être l'homme aurait pu prendre place. Revenons-en à nous. Notre problème concernait un étrange sentiment de malentendu à propos de notre personne, que ce soit au travail, dans le langage et la médecine, ou lorsque les sciences humaines entendaient rendre compte de notre situation. La réponse de Foucault est simple. Les sciences humaines ne font que saisir un homme aux prises avec un savoir biaisé, celui d'un langage qui dépasse notre connaissance et qui existe depuis bien avant notre naissance, celui d'un travail qui n'a plus rien à voir avec sa valeur physique, celle de la vie dont l'origine ne se laisse plus tracer en remontant de simples parentés. Tous ces objets d'étude font office de quasi-transcendantaux, dit Foucault, c'est-à-dire qu'ils ont pris leur indépendance dans notre savoir au point de s'imposer comme des conditions de notre être qu'il appelle des forces de finitude. En effet, ces quasi-transcendantaux ont désormais une effectivité dans notre vie de tous les jours. Le langage, la vie, le travail nous échappent et vaut comme une instance supérieure à laquelle nous sommes soumis. Alors que, comble du comble, c'était nous qui étions censés les dominer et les prendre pour objets. Ainsi, l'anthropologie et les sciences humaines, plutôt que de retrouver le véritable fait humain dessous ces conditionnements artificiels, ces sciences se donnent pour objet quelque chose de déjà conditionné, l'homme comme simple résultat de ces forces impensées qui dépassent la représentation. Pour formuler à nouveau, l'homme ne serait qu'un produit, une représentation d'une forme constituée par des forces qui sont elles-mêmes non représentables. L'image de l'homme n'est donc que le produit de changements dans le champ de la connaissance. Mais Foucault, en pointant ce changement, nous amène à prendre conscience de la relativité des discours. Il y a selon lui un a priori historique qui amène le sujet de la connaissance à croire évident ce qui est en fait une construction culturelle, un implicite qui dicte sa pensée. Ainsi, l'objectif du philosophe se dégage, celui qu'il tentera d'atteindre dans tous ses livres, que ce soit à propos du discours médical dans l'histoire de la folie à l'âge classique ou dans Naissance de la clinique, ou à propos du discours de la criminologie dans Surveiller et punir, ou encore à propos du discours sur la sexualité. On trouve la formule de cet objectif dans une préface anglaise aux mots et les choses. Je cite « Mettre à jour un inconscient positif du savoir, un niveau qui échappe à la conscience du chercheur et pourtant fait partie du discours scientifique. Sans qu'ils eussent conscience, les naturalistes, les économistes et les grammairiens utilisaient les mêmes règles pour définir les objets propres à leur champ d'étude, pour former leurs concepts, pour écrire leurs théories. Ce sont ces règles qu'il s'agira de débusquer dans l'inconscient historique, notamment en analysant comment ce savoir est toujours un objet de pouvoir. Cela consistera par exemple dans Surveiller et punir, à dévoiler une économie politique du corps, mise en place par les théoriciens de la justice. Alors que la punition des criminels consiste en un châtiment physique, un châtiment du corps, dans le supplice, et ce jusqu'au XVIIIe siècle, la punition prendra la forme de la représentation, remarque Foucault, comme suggestion d'un mal à venir intériorisé par les potentiels criminels. Cette structure biopolitique, dont le but explicite est de sécuriser la société, sera alors chargée de toutes les évolutions de la connaissance, inconsciente aux décideurs. De même, l'analyse du discours dans Naissance de la clinique. Foucault y remarque par exemple le fait qu'une consultation chez le médecin, débutée par « Qu'avez-vous au XVIIIe siècle ?», alors que le clinicien moderne demande « Où avez-vous mal ?». Il met ainsi un jour l'apparition d'un homme et de sa signification dans une représentation géographique du corps désormais séparée d'un signifiant proprement humain. Bref, pour résumer, toute sa méthode dans ses objets d'études divers, Foucault tente de dévoiler une norme, une règle inconsciente dans laquelle nous serions pris conceptuellement avant de l'être physiquement. Et l'homme serait le résultat de ces normes, se composer d'implicites et de limites, aussi physiques que morales. C'est face à ce constat que Foucault réclamera la mort de l'homme, disant de lui, je cite, « L'homme n'est pas le plus vieux problème ni le plus constant qui se soit posé au savoir humain. L'homme est une invention dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente, et peut-être la fin prochaine. » Si Foucault réclame cette fin dans les années 60, vous avez bien compris qu'il ne s'agissait pas de votre fin à vous. Bien au contraire, il s'agit de ce redoublement conceptuel qui voudrait vous cerner de trop près et vous assigner des limites qui ne sont pas les vôtres. Force est de constater que l'on ne voit plus trop où est l'homme dans une société qui lie si étroitement le pouvoir au savoir. Le médecin ne voit qu'un corps, le juge ne voit qu'un délinquant, le patron qu'un appareil de production, le professeur ne voit qu'un élève quand ce n'est pas un cancre. C'est que tous ont en commun de redoubler l'être qu'ils ont en face d'eux d'une représentation et d'une norme, directement issue des savoirs modernes. Et si on parle encore d'homme, c'est peut-être pour se faire croire qu'on a fait tout ça pour lui. Quelle solution alors? Personnellement, je n'en vois pas beaucoup. Une solide ironie peut néanmoins vous permettre de résister silencieusement aux formes bien incertaines qu'on voudrait vous faire prendre, que ça soit face au regard d'un médecin ou face à celui de votre patron. Dans Les mots et les choses, Foucault en indique d'autres sûrement plus intéressantes. La première solution indiquée par Foucault suit l'exemple du langage. Au même moment où le langage a échappé à sa répartition formelle, excédant la grammaire de force de flexion et de composants non grammaticaux, celui-ci s'est reconstitué dans le monde de l'art. Le mot s'est reconstitué par l'intermédiaire de Mallarmé d'abord, puis Antonin Artaud et Raymond Roussel. Selon Foucault, alors que le langage avait perdu son unité avec la chose comme avec son énonciateur, la littérature et la poésie rétablissent le mot et son unité avec la pensée. En effet, la littérature s'exprime, mais ne dit rien à proprement parler. On ne peut pas dire ce que signifie un poème, par exemple. Seul le mot vaut désormais dans l'apparition d'une pensée soudaine, qui serait le mot lui-même. C'est ce que Foucault appelle l'être du langage, et qui peut-être indique un avenir possible dans toutes nos sphères d'existence. En effet, si notre travail se rassemble de la même manière que le mot, dans un acte de travail, on peut imaginer que notre travail ne se disperserait plus en production d'une valeur inassignable qui nous échappe jusque dans des paradis fiscaux. Si on suit l'exemple de l'art, notre travail qui n'a dans le monde moderne plus de commune mesure avec la valeur que nous y plaçons, retrouve tout son sens. Nous travaillerions alors, peu importe le domaine, d'une manière et dans un acte qui se suffit à lui-même, investi de toute la profondeur de nos besoins physiques et psychiques. Alors certes, ce changement ne se fera pas en un jour, et il faudra du temps avant que l'on comprenne vos exigences de surhomme, mais gardons espoir. La deuxième solution concerne les sciences qui nous permettent de dépasser notre représentation des choses et de l'homme. De toutes les sciences concernant l'homme, la psychanalyse et l'ethnologie font figure d'exception pour Foucault. Je le lis. L'ethnologie et la psychanalyse interrogent non pas l'homme lui-même, tel qu'il peut apparaître dans les sciences humaines, mais la région qui rend possible en général un savoir sur l'homme. Comme la psychanalyse, elle traverse tout le champ de ce savoir dans un mouvement qui tend à en rejoindre les limites. En d'autres termes, ces deux sciences permettent de contourner les limites des représentations que nous avons de notre vie, de notre langage, de nos besoins, jusqu'à l'inconscient et permettraient ainsi d'étudier les conditions de l'homme. Psychanalyse et ethnologie permettraient de désigner les conditions de la pensée que sont les quasi-transcendentaux et les représentations culturelles comme normes pour nous libérer de la forme homme que ces savoirs biaisés constituent. La deuxième solution, donc, serait de suivre une psychanalyse pour vous rendre compte que tout ce que vous avez pu penser de vous n'est que vanité, placée en vous par un long malentendu. À ce titre, vous pouvez également convaincre un de vos amis adeptes du transhumanisme de faire la même chose. Il est peut-être la malheureuse victime d'un a priori historique qui le rend dupe de ses représentations et le pousse à chercher toujours devant lui une vie éternelle et quasi transcendantale, alors que cet espoir trouve précisément sa source dans son passé de scientifique. La troisième solution, enfin, serait de vous faire ethnologue et de partir étudier les Dogons du Mali. Là, vous retrouveriez ce que être veut dire, par-delà la ratio occidentale et les conceptions bien pensantes. Voilà, nous avons essayé de rabattre la théorie de Foucault, majoritairement développée dans Les mots et les choses, sur des expériences de la vie courante, et cela au prix de nombreuses erreurs d'ordre théorique et d'un dogmatisme qu'aurait sûrement détesté Foucault. Mais comme a probablement dû le dire Socrate, il vaut mieux une réponse fausse que pas de réponse du tout. Les philosophes aiment prendre les problèmes par le petit côté. Mais il ne faut pas s'y tromper. Ce sont des gens timides qui préfèrent nous aider sans en avoir l'air, en faisant le détour de la réflexion. Et tout leur travail pourrait se résumer à un « La vie c'est compliqué, hein, mais on va y arriver ». Allez, à la prochaine pour trouver des nouvelles solutions. Bonsoir. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you.
bonne sera, señorina, kiss me goodnight.